Ouais, je suis super content, c'est super, c'est génial. Je vais être augmenté de 1,3%, je vais pouvoir gagner du pognon. Super, je vais pouvoir prendre des emprunts pour sauver la France, il faut sauver la France. Le délire. Bon, ciao tout le monde, Jean-Claude Assier, salut.
C'est formidable, formidable. Là, à l'instant, aux informations de 11h sur France Inter, en l'espace d'une minute, on apprend que notre nabo national, pour pouvoir ressembler au prince Louis-Napoléon et pour l'exercice d'une véritable démocratie, nous fait donc dépenser 400 000 euros pour ce congrès de Versailles. Et dans la seconde qui suit, on apprend que le SMIC ne sera pas revalorisé parce que les caisses de l'État sont vides. Voilà, des informations brutes, livrées comme tous les jours par des journalistes objectifs, et à nous d'en tirer les conclusions. Je me demande ce qu'on attend.
Bonjour, Will du Tarn. Le prochain repère de Castres aura lieu ce mercredi 24 juin à partir de 19h30 au Kiwi Bar, place de l'Albenque. Vu les récents dénis de démocratie et les conclusions douteuses que nos chers politiques tirent des résultats de scrutins électoraux, nous nous demanderons quelle forme d'expression démocratique il reste aux citoyens. Apportez de quoi grignoter, venez nombreux. Merci.
Bonsoir Daniel. Plusieurs fois tu as su nous offrir des moments sublimes de radio, comme par exemple mes amis Pierrou que j'ai en souvenir. Il en était de même pour Villers, José Arthur, Bory et d'autres. Dimanche, le jour de l'été, un de ces rares moments de radio intense a eu lieu. Pour la dernière fois de la saison, la crise, j'allais dire notre crise, était l'invité de sa propre émission, présentée depuis plusieurs semaines par Marie-Pierre Planchon, qui, entre parenthèses, n'a pas à rougir de ses prestations. Et Dieu sait que ça ne doit pas être facile de remplacer la crise. Alors notre crise nous a parlé librement, puis avec pudeur de son cancer, et qu'elle continue à faire le chat, et puis à être ce qu'elle est. Nous sommes nombreux à aimer cette voix de radio qui, comme moi, m'accompagne depuis l'oreille en coin. Nous vous aimons beaucoup.
AMG de la Côte d'Azur et du Var, bonjour. Nous allons délocaliser, et oui, nous délocalisons, mais on délocalise le repère. Alors rencontrons-nous tous pour un repère spécial le samedi 27 juin sur la colline du Château de Nice. Avis au repère de Grasse, de Nice, Fayence, les Estérés du Lac. Rendez-vous à 19h près du manège, cherchez le grand au chapeau cubain. On fera autour d'une merguez le point sur cette saison passée. Venez nombreux, à samedi. Ciao viva, portez-vous bien.
Eh ben, ciao viva, portez-vous bien. Merci pour ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, on continue avec l'atelier du non-faire. L'atelier du non-faire, c'est un atelier de peinture et de musique, mais dans un lieu particulier qui est Maison Blanche. Maison Blanche, c'est-à-dire un hôpital psychiatrique qui est en voie de fermeture. Et il y a dans cet hôpital, dans ce grand espace, un lieu qui résiste encore, qui s'accroche aux branches depuis 1983. Les patients qui sont là, qui viennent là, eh bien peuvent faire de la peinture avec l'animateur du lieu, Christian Sabas, qui est l'initiateur aussi de cet endroit. On l'a rencontré hier, on les a rencontrés hier, et de nombreux problèmes évidemment sont soulevés par l'existence de cet atelier par rapport à la politique dans ce domaine, la politique officielle. Dans ce domaine, il y a une tension, disons, pour le moins. Et puis, voilà, c'est aussi l'envie de rentrer dans ces espaces et de réfléchir face à la folie. C'est voilà le thème de deuxième volet donc de cette rencontre, pas forcément triste d'ailleurs, évidemment. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Nous convions les invités du repère d'Aix le mardi 23 juin à 19h30 au bar Le Festival, en bas du cours Mirabeau, face à la rotonde. Le thème choisi est l'impact des médias, des sondages, des partis politiques, de l'éducation sur la démocratie. Merci, au revoir.
Salut à Daniel, salut à tous les AMG. Ce mercredi, le 24 juin, c'est l'ouverture des soldes. C'est aussi le jour annoncé pour le remaniement ministériel, puisque Sarkozy chercherait un écolo au rabais, histoire de verdir un peu sa garde-robe d'ouverture. Qu'il se méprenne, cette fois-ci, il ne suffira pas d'utiliser un personnage symbole et un beau grenelle dont l'ambition se réduit comme une peau de chagrin à chaque passage à l'Assemblée. S'il prend un personnage engagé dans le combat écologique, il faudra lui donner des moyens, lui laisser mener une politique ambitieuse, et quelle serait notre déception de voir un écologiste obligé de soutenir le déploiement du nucléaire destiné à la vente d'électricité à l'étranger, parce que ça ferait des recettes. Écologiste convaincu, en cette période de soldes et de remaniement, ne bradez pas vos idées. C'était Claire d'Antibes. Au revoir.
Le maire UMP de Villeneuve-les-Avignon se lance au grand galop dans le mode du développement durable. Pourtant, danger pour la biodiversité et la garrigue. Sur 48 hectares, la construction de nos logements s'avère un redoutable bulldozer et nous voilà dans l'ère de lime au béton. Mais à quoi bon le Grenelle de l'environnement? Ne laissons pas passer. Adhérez au collectif éco-citoyen de Villeneuve-Avignon. Merci, au revoir.
Tu crois qu'il dirait merci? Penses-tu? Rien du tout. Leur salaire horaire augmente de 11 centimes d'euros, ce qui fait quand même 14 euros de plus chaque mois. Et ils voulaient un coup de pouce supplémentaire. Et puis quoi encore? À la place, eh ben, ils ont eu un bon coup de pied au cul. Quand Brice Hortefeux, leur ministre, leur a annoncé sans rire, il rit jamais cet homme-là, qu'avec cette augmentation, le maintien de leur pouvoir d'achat était assuré. Merci, monsieur Hortefeux. Grâce à vous, c'est sûr et certain, les smicards vont enfin pouvoir se précipiter sur l'emprunt d'État qui a été proposé cet après-midi par notre nouveau roi de France. Allez les smicards, tous en cœur. Vive le roi! Vive le roi!
Fou, pas fou, on s'en fout.
T'as le bruit des clés, là, hein. C'est bien.
Bonsoir.
Bonjour, docteur.
Ah, je suis pas un docteur.
Pas encore.
Pas encore. Je suis prof d'anglais.
C'est vrai?
Oui.
I think when a cup of tea is good, it's not because my bicycle was green or and yellow. No? Sure?
Un ananas, une banane, une pomme et un personnage.
Le personnage, c'est celui qui est en noir?
En noir, oui. C'est un vampire.
Un vampire?
Un vampire, oui.
Pourquoi t'as fait un vampire?
Parce que ça fait des mains, ça suce le sang. Ça sent des filles. Ça plante ses dents, puis ça croque. Ça croque les filles.
Et pourquoi alors t'as fait un vampire?
Parce qu'il y avait la teinte de noir. Il y a deux trucs qui ont coulé bêtement. J'ai dit, j'ai commencé à faire un personnage.
Ça a fini, c'était un...
Ça a fini en vampire.
Ben c'est ça, le problème, il a toujours été là. D'autre manière, la folie, c'est la question de l'exister que ça pose, la folie. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Mais je crois que la bonne question, c'est comment je veux faire pour m'en tirer, quoi? Puisque je suis là, qu'est-ce que je veux foutre de ma carcasse?
Moi, je m'appelle Charlotte.
Moi, c'est pas quoi. Et alors, c'est combien de temps que tu es à Maison Blanche? Ça se passe bien, l'hospitalisation?
Ça va à peu
ça
près.
Va à peu près.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec Charlotte Perry, l'atelier du non-faire.
Flight number 2, arriving from New York.
Je suis un travailleur, j'ai fait un examen pour être ici. Donc je suis un... disons que j'étais plus censé savoir ce que je venais y faire. Infirmier psy, et au départ, c'est... Faire l'infirmier, c'est quoi? Peut-être de faire ce que les gens continuent de faire traditionnellement ou classiquement ici. Tu lèves les gens, tu laves les gens, tu prépares des gouttes et tu donnes des gouttes et tu recouches les gens et après tu pars. C'est ça le travail de l'infirmier en fait. Et si un mec qui tombe, tu lui passes un peu d'alcool à 90 sur la sur le bois ou le pied ou sur l'écorchure. Mais en fait, si on prend par exemple le problème de l'écorchure, justement, si on ouvre le mot, eh ben après on essaie de voir autre chose. Et qui est-ce qui est écorché, comment, quoi, et la psychiatrie c'est quoi, c'est où est-ce que les gens ils sont écorchés, quoi. Donc on rentre dans d'autres dimensions qui sont plus intéressantes pour la psychiatrie. C'est-à-dire que bon, la psychiatrie c'est un haut lieu où la cassure, la faille dans l'individu est présente en fait. Après c'est les questions d'hommes et de femmes, et après l'infirmier qu'est-ce qu'il va faire là, sinon tenter de coudre un peu tout ça, de restaurer tout ça, quoi. Restaurer quoi? On ne va pas dire l'amour, mais restaurer un espèce de rapport à l'amour.
Christian Sabas, il s'appelle, on l'a rencontré là-bas, dans cet atelier, étonnant atelier, des centaines et des milliers de toiles entassées, accumulées depuis des années, depuis 1983, et peintes par les patients de cet hôpital de Maison-Blanche, qui est en cours de fermeture. La plupart des pavillons de Maison-Blanche ont été déménagés sur Paris, dans le 19e et le 20e arrondissement, et la fermeture complète du site est prévu pour la fin de cette année. En principe, le site de Maison Blanche appartient à la mairie de Neuilly-sur-Marne et a été vendu à des promoteurs qui vont certainement créer un centre hôtelier pour Disneyland. Mutation importante, évidemment, problème pour ce lieu étonnant qui était voulu par, entre autres, par celui qu'on vient d'entendre, Christian Sabas. Quelqu'un d'atypique, il est infirmier, psychiatrique, atypique mais pas isolé parce que il s'inscrit dans un courant très ancien de l'attitude d'une société et d'une humanité face à la folie, face à tous ceux qui ont fait de leur pratique œuvre de libération des fécondités dont la folie est porteuse. Œuvre de libération aussi de la pensée de tous, rendant au peuple son honneur perdu à maltraiter les plus vulnérables d'entre nous. Je lis quelques lignes du manifeste pour la création d'un mouvement pour la psychiatrie dans le cadre d'une démarche qui s'appelle la nuit sécuritaire et qui se manifeste suite au discours du président de la République en décembre dernier, qui a inquiété beaucoup ce milieu, ou une partie de ce milieu, tant ce discours s'inscrit dans une politique, et on pourrait dire une philosophie sécuritaire, et qui n'est pas sans rappeler évidemment ce contre quoi luttent ces gens-là, ceux qui écrivent ces lignes, c'est-à-dire sortir de l'enfermement, sortir de l'aliénation et des philosophies aliénistes. En France, il faut savoir un petit peu ce dont on parle quand on parle de maladies psychiques ou psychiatriques. J'ai sous les yeux une étude qui a été présentée par le Centre National de l'Expertise Hospitalière, le CNEH, il y a très peu de temps, le 9 avril 2009, au Sénat, lors de journées d'études. Il faut savoir qu'en France, la schizophrénie touche 635 000 personnes, dont 26 000 jeunes de 15 à 25 ans. On estime à 3 000 le nombre de suicides de schizophrènes chaque année dans notre pays. La dépression en France affecte 5 millions de personnes et serait la première cause de suicide, soit 6 000 à 7 000 cas par an. On estime à 44% le nombre de dépressifs qui n'ont pas accès aux soins. Le trouble qu'on appelle le trouble bipolaire, c'est-à-dire le trouble maniaco-dépressif, toucherait 750 000 personnes avec des conséquences en matière de désocialisation. 650 000 handicapés mentaux en France, dont près de 10% sont pris en charge à temps plein. La démence, et la démence sénile entre autres, touche 860 000 personnes et pourra en concerner 2,1 millions en 2040. Etc, etc. On a des chiffres énormes, comme ça on voit que quand on crée des débats sur le port ou non de la burqa, on est loin des réalités sanitaires et sociales de notre pays. Non pas que nous soyons dans une situation exceptionnelle, mais qu'on a là quelque chose qui interroge notre humanité, notre réflexion et, en fin de compte, notre ou nos politiques. Et c'est des choses évidemment fondamentales qui se posent à nous. On va pas régler cette question-là d'ici à 16 heures dans la bas si j'y suis. On va simplement dans cet atelier avec ceux qui y viennent, qui le fréquentent et qui espèrent un peu plus d'humanité. Tant il est vrai que ce qui fait l'injustice, ce n'est pas tant la loi injuste que l'obéissance à la loi injuste. Et puis n'oubliez pas cette blague qu'on racontait quand on était enfant et qui finissait avec la phrase « Je suis fou peut-être, mais je suis pas con ».
Moi, je m'appelle Charlotte.
Moi, c'est Paco. Ah, c'est de me la parler, Cyril. Et alors, c'est combien de temps que tu es à mise en blanche? Ça se passe bien, l'hospitalisation?
Ça va à peu près.
Bon, et puis là, il fait beau, c'est bien. Il y a du soleil.
Et vous, comment vous avez connu le non-fait?
C'est une longue histoire. Hein. Ça fait 30 ans que je connais mise en blanche. Je suis arrivé, j'avais 20 ans, j'en ai 50. Donc, ça fait 5 ans que je ne suis pas été hospitalisé ici. Hein. Alors, j'espère plus jamais, si je viens sans visiteur, tu vois, j'espère plus jamais être hospitalisé ici, tu vois. Ça fait 5 ans que j'ai pas été hospitalisé, donc j'espère que ça se reproduira plus jamais. Mais je fais attention, je prends mes médicaments, j'ai ma piqûre tous les mois, parce que je sais quand j'arrête les médicaments, au bout d'un moment, je plonge, quoi. Au bout de 6 mois, un an, je commence à avoir des délires euphoriques. Donc maintenant, quand c'est la date de ma piquouse, je viens me faire ma piquouse. Voilà.
Des délires euphoriques.
Ouais, délire euphorique. Mieux que la cocaïne. Je suis restone pendant 3 semaines, 1 mois, je suis au top du top. Mais après, c'est la grosse descente, quoi. Ouais. Tu sais Eric Mallet, je sais pas si tu vois qui c'est Eric Mallet. C'est lui qui fait apparaître les avions. Regarde. Et hop, il y a un avion qui passe. C'est lui qui les fait apparaître. Il est au 62 là. C'est un mec, son boulot c'était... qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un boulot dans l'audiovisuel, je sais pas, c'est un filmeur, enfin, il filmait, je sais pas ce qui lui est arrivé, enfin, depuis qu'il a 20 ans, il est hospitalisé, mais lui, c'est grave, hein. Il a une barbe comme ça, il a mon âge, et c'est lui qui fait apparaître donc des avions à Maison Blanche, et qui est mort de rire toute la journée devant la télé, et puis il est mort de rire, tu vois, mort de rire. J'espère qu'il va bien.
Et vous, vous êtes connu comment ?
Nous, on s'est connu dans un autre hôpital. Dans un autre hôpital, dans une clinique. Je venais rendre visite à quelqu'un et je suis tombé sur Christina. Voilà, donc on se connaît depuis 7 ans à peu près. Et elle vient me voir une fois ou deux par an, deux fois par an. Et moi, j'étais en Suède la voir aussi.
T'es suédoise ?
Ah oui, c'est dit, je t'aime.
Jörg Elskadei.
C'est justement suédois.
Maintenant, tu habites en France ?
Non, en Suède, je suis ici aux vacances.
Ah.
Passer des super vacances à Maison Blanche.
On a le bruit des clés là, c'est bien.
Vous travaillez ici ?
Ouais.
Vous êtes
au pavillon 62.
Vous êtes infirmière ?
Je suis infirmière, ouais.
Et vous aussi ?
Étudiante infirmière.
D'accord. Et vous amenez les patients ?
Voilà, on fait des tours ici dans le parc quand ils veulent sortir un petit peu les patients pour les divertir. Je pensais que c'était fermé jusqu'à là. Et puis là, Christian vient de me dire que c'est ouvert le vendredi.
C'est tout mis.
Mais c'est une bonne.
On se reverra. Hein.
C'est vraiment une bonne adresse.
Moi, je voulais juste dire que moi, j'aime beaucoup venir ici. Surtout quand il y a beaucoup de patients, parce que quand il y a. Quand ici c'est ouvert et je suis pas là, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Mais quand je suis là, il y a la foule en trempe. Et j'aime beaucoup les patients parce qu'il y en a, j'ai remarqué, ils ont retrouvé du réconfort dans la musique. Et la preuve, on ne les voit plus aujourd'hui.
Et vous puis le premier, voilà. Vous êtes bien ici.
Moi, c'est un palace pour moi ici.
T'aimes bien venir ici?
Non, en fait, je viens ici parce que je m'éloigne un peu de ma famille, mais... Non, ici, c'est cool.
On parle de l'enfer.
Ah, de l'enfer, bah, il faut qu'il soit ouvert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il devrait se reposer que le week-end. Christian, si t'entends ça, que le week-end, repose-toi.
Justement, j'ai travaillé suffisamment dedans pour te dire que ça devrait pas exister, puisque c'est pas un réel espace, quoi.
Christian Sabas.
C'est des lieux en dehors du monde. Alors, je sais pas, il faut s'arranger pour que les gens soient dans le monde, il faut pour traiter les gens et comme, justement, comme s'ils devaient vivre. Et là, c'est pas vraiment comme s'ils devaient vivre, plutôt comme s'ils devaient mourir. Parce que, moi, si tu vas faire un tour dans les pavillons là, tu vas pas te dire que oui, c'est des gens qu'ils destinent au vivre. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu le vois, lui.
Quentin, ouais, là-bas.
Eh ben, quand il retourne dans son pavillon, je sais pas, regarde dans quel état il est là. C'est quoi qui vit ? Même là, comme ça, qu'est-ce qu'il vit ? C'est difficile, très très difficile. Non, infirmier, c'est un boulot sympa. Mais bien sûr, il faut vouloir être avec les gens et faire des choses, oui. Mais moi, dans mon cas, moi, c'est vouloir non faire. Tu comprends ? Donc ça devient plus compliqué.
Je vous écoute.
Bien. Eh bien, musique. Do, do, on y va, c'est pas grave.
Si j'étais aussi grand qu'une maison, je pourrais toucher les nuages.
Top, 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 je vous arrête. Mm-hmm. Votre maison touche les nuages.
Ah non.
Alors vous avez déjà vu une maison toucher les nuages?
Non.
Bon, continuez.
Ok.
Si j'étais aussi grand qu'un mur, je pourrais m'envoler.
Parce que d'après vous, les murs volent, hein?
Non.
Nous sommes d'accord. Continuez.
Merci.
Si j'étais une moto, je ne mangerais pas, je roulerais. Si j'étais un ballon de basket, je ne mangerais pas, je rebondirais.
Petit problème de poids, sans doute. Anorexique?
Non, non.
Boulimique?
Non plus, non.
Non. Intéressant. Continuez.
Bien.
Si je pouvais me transformer en un humain, mais j'en suis déjà un. Un genre de chanteur qui a du succès. Oh yeah.
Bon, c'est fini?
Oui.
Alors comme ça, vous chantez?
Non.
Et vous avez du succès.
Non.
Eh ben, dites-moi, mon vieux, vous avez un sérieux problème de communication.
Non.
Bien, bien.
Merci, docteur.
De rien. C'est 1000 francs, soit 152,45 € et des poussières.
Chèque ? Un carte de crédit ?
Liquide, s'il vous plaît. Merci.
Fou, pas fou, on s'en fout.
Ouais. On joue, on joue.
Ils m'ont dit que tu connaissais super bien toutes les toiles qui étaient ici.
C'est-à-dire, il faut que je joue avec Christian et.
D'accord.
Non, 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 on va faire ça, mais à un moment.
Ah bon, bon, d'accord.
Bon, parce que oui, vous avez compris, on fait pas seulement de la musique, on fait aussi pas seulement de la peinture, mais on fait aussi de la musique à l'atelier du non-fer. Alors, l'étoile, ça représente quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va en avoir une petite idée. Il y a un livre qui est paru là-dessus, qui s'appelle L'atelier du non-fer. On voit toute une succession de toiles somptueuses, très très belles pour certaines. Enfin, vous y trouvez vraiment votre bonheur. C'est aux presses de le HESP, on vous donnera ça sur le site de France Inter avec précision. Mais d'ici là, puisque nous sommes dans l'atelier, eh bien, baladons-nous dans l'atelier.
On commence par le fond.
Bah alors ici, il y a beaucoup de choses à Quentin et Lyon. D'ailleurs, il signe Lyon. C'est son. Je sais pas, tu l'as peut-être aperçu. C'est un black antillais un peu ralenti en ce moment, quoi.
Ouais, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu.
Ben, tout ça, c'est de lui. Tout ça, tout ça. Tout ça. Tout ça.
Ouais. Tout ça, c'est. Énormément pas.
Oui, oui, il y a beaucoup. Tout ça. Ça. Tout ce qu'il y a par terre. Tout ça partout.
C'est par plein de petites touches, en fait, souvent. Beaucoup de tableaux, c'est très détaillé, quoi. Il y a plein de petites touches.
Ouais. Je sais que c'est peuplé d'un monde, quoi. D'un monde important, quoi. Ce qui fait, quoi, il y a toujours des personnages. La majeure partie de ces toiles, il y a des personnages, quoi. Mmh. C'est tout ce que je remarque. Ici, moi, ici, j'aime bien m'arrêter parce que ça voyage. Hein. Bon, peut-être que sur un plan anatomique, c'est pas du plus rigoureux, quoi. Mais les couleurs, les ambiances, c'est sympathique, quoi. C'est bien. C'est un grand peintre du non-fer, Quentin Hunion. Un grand peintre.
Quentin, c'est qui? Ah, c'est le monsieur qui se lève.
T'as beaucoup de peinture ici.
J'ai plusieurs toiles que j'ai faites. Mais quand je peignais, je me sentais peine. Et je mettais tout mon âme, mon esprit, mes nerfs dans la toile. Et la toile, maintenant, c'est comme une toile qui est sacrée, quoi. Quand tu la touches, tu sens mon âme. Tu sens mon esprit et mon corps. Quand même du rose, du vert et du jaune et du noir, je me sens au paradis quand même. Peint. C'est pour ça que j'aime bien venir ici. Si vous savez comment je suis content quand je vais en enfer, quand il y a de la musique, j'entends la musique. J'entends le soliste qui met tout son âme dans la musique. Je suis obligé de pleurer pas de rage, mais de plaisir. Je sens l'électricité dans tout mon corps quand je sens la musique de Christian. Je commence à chanter, je mets tout mon esprit et mon âme et tout mon être. Malgré qu'il me manque des dents, je fais le maximum pour en plaire au public et à moi-même. Ça fait 40 ans que je suis en psychiatrie. Maintenant, je ne m'étonne même plus de tout ce qui m'arrive.
Ça, c'est Romero. Ah bah, c'est signé Romero, d'ailleurs.
Eric.
Tout le monde s'est inquiété le jour où il a fait cette toile.
Pourquoi ?
Bah.
Ah oui, j'avais pas vu la jambe, parce que ce qu'on voit en premier, c'est un bras de femme qui écrit « Je t'aime ».
Ouais, avec le sang.
Il écrit avec le sang de son pied.
Ouais, je sais pas, ton pied tranché. C'est ça, c'est des isorelles. Christian a récupéré ça dans les ED, les trucs comme ça. Tu sais, c'est ce qui sert à diviser les palettes.
Oui. Il ramène ça.
Et on peignait dessus, ouais.
Toi, ça fait combien de temps que tu fréquentes l'atelier ici ?
Depuis les débuts, à peu près.
83 ?
Ouais. Ça, c'est Crouzex, apparemment. Un peintre qui a beaucoup de facilité à peindre, d'ailleurs. Un vieux monsieur, je crois qu'il est décédé maintenant. Il peignait comme certains écrivent. Bon, ouais, je vais pas rentrer dans les polémiques.
C'est quoi les polémiques ?
Non, ça c'est de lui encore, je crois. Oui, c'est de lui, Alain-Pierre Crouzet. Ouais. Il y en a qui disent qu'il fait que du Matisse ou du Picasso pendant une certaine période, et puis c'est tout, quoi. Mmh. Mais bon, faut le faire quand même. Hein.
Ouais.
Ben ouais. Ces deux toiles, elles ont été faites par Ismaïl.
Il fait souvent avec les animaux. Celui-là, par exemple, c'est des éléphants.
Très jeune, il a travaillé dans les cirques. Ouais, il s'occupait des chevaux et des éléphants. Bon.
Et toi, comment t'as été amené à rencontrer Christian ? Et le nom faire et...
Je revenais d'une tournée de cirque.
Ismaël.
Oui, j'avais monté mon cirque. Alors qu'à l'école, on m'avait dit, quand j'avais parlé de ce projet-là, on m'avait dit, si tu finis pas à la rue, c'est déjà bien. Voilà. En fait, c'est toute cette lutte-là contre les tueurs de rêves, en fait.
T'avais quel âge quand t'as créé le cirque ?
94, j'avais 21. J'ai 37 ans, là. Et donc, après cette expérience-là, où on arrive à tout trop tôt, et qu'au final, après, il y a le néant, c'est-à-dire on vit les choses, mais il y a rien. C'est-à-dire que le rêve, il est déjà atteint, donc il y a plus rien à vivre. Comme si les sens, ils étaient morts. Donc après, je suis rentré à Paris.
T'étais pas à Paris, le cirque ?
Non. Le premier que j'ai monté, c'était aux Antilles. Mais après, bon, j'ai tourné en Suède, en Allemagne, un peu partout. Après, dans les cirques, ça tourne. Voilà, donc après le cirque, en 98, quoi, je suis arrivé à l'hôpital, à Sainte-Anne, en disant j'ai mal à la tête, à l'accueil, comme ça. Et ils m'ont dit, il m'a regardé comme ça, puis il m'a montré les urgences. Donc j'ai été, et entre-temps, je suis tombé en hypothermie. Et de là, on m'a transféré à 22h le soir à Maison-Blanche. Et j'ai découvert l'atelier, je suis resté 2 mois, et j'ai découvert l'atelier les 3 dernières semaines. Voilà. Et donc les 3 dernières semaines, j'ai peint, j'ai fait presque un tableau tous les jours. Et après, en sortant de l'hôpital, donc là j'étais à la rue, et une personne qui était avec moi dans le pavillon, lui m'a beaucoup aidé. Et en fait, il allait me chercher à manger, il disait non, reste ici, il faut pas que tu restes à la rue, c'est difficile, etc. Donc il a fait vraiment une prise en charge. Et après, moi, j'en suis sorti, et puis je lui disais à lui de venir, et il me disait mais moi je sais rien faire. Et lui, il reste à la rue, il est mort. Donc après, c'est plus des choses comme ça où les gens, il y a un problème de qu'est-ce qu'on apporte aux gens, qu'on peut pas enfermer que les gens sans rien leur apporter en compétences. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé le cirque. Et j'ai toujours voulu en faire et j'avais des caddies. Des caddies, et puis j'écrivais cirque sur le côté. On faisait des spectacles pour les maires de la cité. Et il y avait des lapins, des canards, des poules. Et on avait fait des numéros. Il y avait des numéros d'acrobatie. Donc on a fait ça, bon, avec les maires, etc. Elles payaient avec des pierres plates. Donc ça les obligeait à aller chercher des pierres plates. Et donc, elles venaient. Il y avait tout un décor, hein. Et donc j'avais volé des couvertures de chez moi pour faire le rideau, et il y avait des mâts et tout ça, et il y avait des gradins avec des pierres qu'on avait récupérées, des planches. Donc on faisait vraiment ce travail-là avec un spectacle qui était monté pendant la journée, et ainsi de suite.
C'était en Guadeloupe, en Martinique?
Non, à la cité.
La cité où?
À Tremblay, dans un quartier qu'on dit chaud. Mais c'était, en fait, il y a une vie comme ça qui se passe, où les gens ils font avec rien. Mais ça, c'est pas mis en valeur parce qu'il n'y a pas eu d'école, donc il n'y a pas eu de validation. Et c'est pour ça que je parle du fait que, à l'extérieur, c'est plus le travail qui est fait à l'extérieur qui compte. Parce que ici, c'est trop teinté de psychiatrie. Donc, il faut que les gens qui viennent, c'est des gens qui sont, qui ont pas d'appréhension par rapport à ça. Mais à l'extérieur, c'est vraiment comment le rêve, il peut continuer à vivre. Et ça s'appelle un rappel. C'est comment rappeler, il faut pas laisser mourir les choses, il faut continuer.
Psychanalyste, tu cries papa toutes les nuits. À ton âge, c'est un peu triste. Si tu dois crier ça toute ta vie. La nuit, j'ai peur, j'ai des angoisses. Je vois des serpents et des camions. Je me regarde dans la glace. Je n'y vois que des bulles et des ronds. Elle s'appelle Psychose, la fille de minuit, la fille de minuit. Angélatine rose, elle surgit d'un grand puits. De sa langue de feu me crache dans les yeux. Elle saute sur mon lit. On m'a mis des électrodes partout. J'ai pris des bains de gelée de roseille. Toujours avec ma nounou. Mais des poupées gluantes me réveillent. Laisse ton cerceau et tes billes. Éteins ta veilleuse la nuit. Mets du whisky dans ta camomille. Et trouve-toi vite une petite amie. Elle s'appelle Psychose, de minuit, la fille de minuit. Angélatine rose, elle surgit d'un grand puits. De sa langue de feu me crache dans les yeux. Elle saute sur mon lit.
Descends-moi, descends-moi.
Maintenant, nous pouvons passer à la discussion autour de l'intervention de notre cher président le mardi 2 décembre à l'hôpital psychiatrique d'Antony. C'est la première fois qu'un chef d'État se rendait dans un hôpital psychiatrique. Mais moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'aille pas du tout et qu'il oublie l'hôpital psychiatrique. Parce que ce qu'il a dit, c'est dur.
Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux psychiatriques. Je souhaite que plusieurs mesures soient mises en œuvre à cette fin. Nous allons d'abord réaliser un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques.
Alors voilà des mots qui effectivement ont secoué le monde de la psychiatrie. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est un extrait d'une émission de radio produite par les Entonnoirs. Vous vous souvenez, c'était un reportage d'une étudiante de l'ESJ de Lille, de l'École supérieure de journalisme de Lille, Maude Roubaud. Et voilà ce qu'on entendait dans cette émission qui est accompagnée et co-réalisée par l'association Autre Monde, une émission qui est relayée et diffusée, multidiffusée sur différentes radios associatives et libres du nord de la France, Radio Boomerang, Radio Campus Lille, etc. Je leur fais un peu de pub parce que la dernière fois on n'avait pas suffisamment parlé d'eux, ils ont bien raison. Et cette déclaration du président de la République le 2 décembre 2008, visitant un hôpital psychiatrique dont les malades étaient retenus dans leur chambre, constitue une menace et s'inscrit dans le développement de l'idéologie sécuritaire qui fait fureur et qui rend un certain nombre de personnes tout à fait furieuses. Parce que ce projet, ces réformes, impliquent la mutation des professionnels de soins en gardiens et plus grave encore, elles induisent une évolution du statut du patient, sujet de sa parole, à celui de schizophrène dangereux, juste bon à enfermer. Par ailleurs, le préfet devient l'ordonnateur des soins, les experts donnent leur avis, mais la décision, ce doit être l'État. Ça, c'est une citation de Nicolas Sarkozy lors de cet étonnant discours qui a suscité, j'ai évoqué tout à l'heure, un manifeste pour la création d'un mouvement pour la psychiatrie. Vous pouvez trouver ce site qui s'intitule « La nuit sécuritaire » avec cette citation de Tosquel, je ne sais pas qui était Tosquel, mais un auditeur me le dira, mais Tosquel disait « Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c'est l'homme même qui disparaît. » On continue donc cette visite à l'atelier du non-faire à Maison-Blanche, et on retrouve Christian Sabas qui fait partie de ces gens qui ont l'art de se faire des ennemis.
Mais je pense que les médicaments, ils ont voulu donner ça deux ou trois jours, une semaine, pour que l'homme blessé puisse revenir à son état, on pourrait dire cool, son état qu'on appelle normal, tout ça. Mais en fait, tu te rends compte qu'ils donnent le médicament une semaine, deux semaines, trois semaines, après c'est 10 ans. T'as des mecs qui le prennent 30 ans, 40 ans. Donc le problème, il est là, il est entier, parce qu'il a jamais, été différent depuis 40, 50 ans. Et donc, mais ils inventent rien en psychiatrie. Et les mecs, ils veulent pas qu'on diminue le nombre de médecins. Ils veulent pas qu'on essaye de remettre en question leur position, tout ça, les psys. Mais en fait, il y a jamais eu aucun progrès en psychiatrie. Rien du tout. Il y a même pas ce qu'on peut appeler un truc recherche en psychiatrie. Il pourrait y avoir quand même quelques tentatives d'arranger la chose. Il y a que Sarkozy, apparemment, qui tente de porter du nouveau en psychiatrie. Parce que cet an dernier, on entend parler Sarkozy, on entend qu'il impose des lois pour la psy, pour les mecs doivent être enfermés, il n'y a rien à cirer, il faut qu'ils soient enfermés, tout et tout. Et en même temps, c'est là que tu entends, il y a une résistance, il y a des psys. Moi, je trouve que c'est comme s'ils permettaient aux psys de se remettre en question. C'est ça que je trouve faramineux, grand comme truc. En fait, il devrait pas l'engueuler, ce mec-là. Il devrait lui dire que, oui, monsieur Sarkozy, oui, vous nous permettez de prendre une espèce de position, parce qu'on était bien en train de dormir avec nos petits malades dans nos pavillons, dont nous sommes bien les grands patrons, mais c'est ça. Parce que le psy, moi, je trouve qu'il s'en remet pas en question. Parce que si c'est tous les colloques qu'ils font matin, midi et soir, rassemblement dans les appartements et dans les mondanités, blaguer sur les cas, leurs jolis cas. Ouais, mais je n'en ai pas de noir. J'ai pas de noir, je suis sûr que j'ai pas de noir.
La pizza un morceau de pizza enfoui sous la chapelure du poisson pané qu'on a mangé, et c'est sur moi que c'est tombé. Tous les autres ne l'ont pas eu. Ils savent que je suis le fils de Jacques Chirac, donc vraiment c'est François Chirac. Et pour preuve, comme il y a la Freud, à un moment donné il y a un maître qui s'est réveillé pour la prise de médicaments. François, elle dit comme ça.
C'est toi qui jouais du piano la dernière fois?
Oui, c'est moi. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas exposer ma toile, parce qu'il y a écrit François Chirac. Et même, alors c'est pour ça que Christian Sabas, et que toute la manne financière, et caisse, standard, tutelle, est régie par les millions que possède mon père. Et c'est lui qui nourrit l'hôpital. Parce que j'ai vécu dans un bouge. C'est vraiment un bouge. Il n'y avait pas de poignée aux portes. Les portes étaient en bois défoncé. La chambre, dès qu'il y avait deux lits, il n'y avait plus de place. On ne pouvait plus bouger. Mon frère et moi, mon fils et moi. J'ai compris très tôt que c'était mon fils.
Tu fais de la peinture ici aussi?
Ben, j'ai juste fait un tableau là-bas. J'ai dû faire 10 tableaux, pas plus.
Tu me les montres, tu sais où c'est?
Ouais. Celui-là déjà. C'est le dernier que j'ai fait. Mais c'est pas le dernier, celui que je préfère. Mais le signe, François Chirac. Et c'est ça qui dérange.
Ça représente quoi?
Pour moi, j'ai eu la vision de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, je sais pas si tu connais.
Je sais pas où sont passés mes tableaux.
Bah, il y en a tellement.
Ah, je crois que c'est un... J'ai fait celui-là.
Apocalypse.
On voit la tête, un tourbillon de... comme une tornade. On voit deux yeux et la bouche d'un homme qui se fusionne partout dans le monde et qui crée l'apocalypse au sein de tous les êtres vivants sur Terre. Et c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde.
Ce que je préfère, c'est celui-là.
Ah, ça fait penser à Bertolt Brecht, la femme enlacée par un bébé qui est presque déjà un homme.
Tiens, alors en fait, le tableau, moi je l'aime parce que c'est un copain qui l'a fait, que quand il a fait ce tableau, c'était la première fois qu'il se retrouvait à Maison Blanche, c'était mon voisin de chambre. En fait, il se promenait dans la rue pieds nus et il a été arrêté par la police à cause de ça. Il s'est retrouvé 2 mois enfermé à l'hôpital. Et alors son premier tableau qu'il a fait ici, c'est ça. Et en fait, c'est une seule et même personne, et c'est représentant le refus des médicaments. Mais c'est un seul personnage en mouvement.
Je vais t'expliquer ma maladie par rapport à ce tableau. Ma maladie, déjà, c'est non aux médicaments.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, non aux médicaments. Ouais. On t'impose de prendre des médicaments, sinon on te tord le cou. Là, les mains qui ressortent, il y a 2 mains qu'on pourrait supposer être des mains d'un infirmier qui te tient par les pieds, par les jambes, par les mains, par le corps, pour t'obliger à prendre ton traitement. Et le tout, c'est ce qu'on a appelé chez moi la chimio-résistance aux médicaments. C'est-à-dire que plus on donne des médicaments, plus je me rebelle contre ces médicaments. Parce que les médicaments affaiblissent, ils cassent, ils te cassent, ils cassent, c'est de la castration pure et dure.
L'arlequin, là, où il est beau.
Ah, il est beau. C'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. Il est recherché dans les clairs-obscurs.
C'est vous qui jouez du piano?
Oui.
On vous a entendu l'autre jour, c'était magnifique. Ah, vous avez joué, là, aujourd'hui?
Quelle heure il est?
Il est 3 heures.
Non, je rentre à 3 heures.
Ah, vous devez rentrer au sein, là, à côté, là?
Non, au pavillon.
À côté, au pavillon.
Non, 58 en face. Moi, j'ai rentré, je suis désolé.
D'accord.
Alors, à la prochaine.
À la prochaine.
Bonjour. Voilà. Tu vois, t'as un peu le goulag que c'est. Tu sors une heure, je vais rentrer une heure enfermée.
L'enfermement. Et dans mes fers, ce sont mes membres qui sont paralysés. Au dernier degré de mes convulsions, j'ai dû sortir des flammes et rechercher l'eau des abysses, la luminosité d'un soleil, durant sur mes pensées des plus solaires, celles qui, contrario, longtemps, m'ont préservé des vaisseaux du ciel, et dans les regards s'échanger des souffrances avec la nouvelle condition d'enfermé et de prisonnier des lames de cet enfer, foutant mes mises à sac intérieur au profit d'une éternité d'adieu, du vent dans ses vomissements, de la sombre déjection de soufre et de brûlantes sensations. Au plus profond de mon effondrement, je me savais l'acteur d'une démission, sans pour autant rallier mes désirs d'évasion à la jungle du tropisme, par laquelle je voulais me faufiler pour entendre combien, dans ma cellule de malade, il y avait une entente entre mon mal-être et ma complicité à demeurer dans mes souffrances de soufre. Donc, c'est dans les enfers des angoisses parallèles à mes sentiments aimantés que j'ai plongé tel un corps en déjection, avalé par la soupe à charbon.
Vous êtes...
Moi, je suis psychologue, psychanalyste, et je travaille toujours d'ailleurs ici à Maison Blanche, mais enfin, plus sur le site, mais dans Paris.
D'accord. Voilà. Parce qu'ils ont déménagé la plupart des
pavillons, oui, ont déménagé sur Paris.
Pourquoi ils ont fait ça, en fait, vous savez, vous ?
Ouais, bah, écoutez, ça fait partie d'un programme de fermeture des grands hôpitaux pour pouvoir rapprocher les gens un petit peu de leur domicile. Enfin, ça, c'était... ce qui était pensé au départ, mais finalement, ça s'intègre dans un programme politique de fermeture de centres qui aujourd'hui reviennent trop cher à l'État. Bien sûr, à Paris, ils tournent dans des couloirs et dans un petit patio. Hein, il faut venir voir d'ailleurs, voir la différence. Vous venez à Avron et vous allez rue d'Avron et vous allez voir par quoi le parc a été remplacé. Hein, c'est terrible et pour certains, c'est très très difficile de s'accommoder de ces nouveaux lieux parce que ça ne favorise pas le repos et le sentiment de protection hein, dont ils ont besoin.
Et Maison Blanche, vous savez ce que ça va devenir ?
Le site de Maison Blanche a été déjà racheté en partie par des promoteurs de Neuilly-sur-Marne. Donc voilà, c'est autant d'argent pour les promoteurs qui vont certainement créer d'ailleurs un centre hôtelier pour Disneyland, pour accueillir les touristes qui iront s'amuser à Disneyland.
C'est assez ironique comme transformation.
Oui, 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 effectivement, parce que c'est bien que les enfants puissent s'amuser, mais il y a aussi, une société doit aussi s'occuper des gens malades, des gens qui ont besoin justement d'une place pour vivre. Et aujourd'hui, la place dans la ville est de plus en plus restreinte, parce que souvent, les malades qui n'ont pas la possibilité d'avoir un logement se retrouvent souvent dans la rue. Puis après, de la rue, ben, la prison. Mais il faut savoir que le nombre de SDF sont quand même des malades mentaux, hein, des psychotiques, des schizophrènes. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème de société. On aura des sociétés de plus en plus clivées et avec un clivage social de plus en plus grand, avec des murs et des barrières. Alors on a fait tomber des murs, d'anciens murs, mais on en construit d'autres, peut-être plus sournois encore qu'avant.
Bonjour.
Riffard, enchanté, vous.
Charlotte.
Ah ouais, voilà, c'est comme ça que j'aime jouer. Ok, on est toujours en inquiétude, c'est toujours qui bébé, qui baisse toujours la police nationale. Même du fond de ma cage, même du fond de mon guitare, venez me chercher, venez me chercher.
Sur les murailles de l'enfer, Dante avait écrit « Vous qui entrez ici, perdez tout espoir ». Eh bien, Don Quichotte, en fait, est descendu à son tour aux enfers pour remplacer cette inscription et écrire « Vive l'espérance ». Merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Lila Sewad et à tous les amis de l'atelier du non-faire. Et merci aussi aux entonnoirs. Démence précoce, ça c'est quand même quelque chose d'important, sera en concert, vous les entendez là derrière moi. Démence précoce sera en concert mercredi 24 juin à partir de 18h, où ça, à la mairie du 2e arrondissement de Paris, 8 rue de la Banque, métro Bourse. Et puis à découvrir le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, L'Atelier du non-faire, édité par l'École des hautes études en santé publique. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org. Là-bas.org, la technique aujourd'hui. Éric Morin, Christian Thibaudeau, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, qui fait tout le boulot, et Agnès Lebotte, quant à elle, attend vos messages au répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.